Bonjour, aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Nouveau projet et Québec Science. Au programme, Civilisation fossile. Et filtre antimicroplastique pour laveuse, une expérience québécoise. Bonne écoute.
Civilisation fossile, un texte de Dali Giroux, paru dans l'édition Printemps-été 2022 dans le magazine Nouveau projet. Pour les sociétés industrialisées, le pétrole n'est pas seulement le ciment de notre économie, il est le fondement de notre rapport concret au monde. Ma première job était une job de pompiste dans un gaz-bar sur la rive sud de Québec. C'est en mettant du gaz dans des chars 40 heures par semaine que j'ai pu m'acheter mon premier bazou à l'âge de 16 ans. Je suis une personne de région et, exception faite de mes années montréalaises, je me suis toujours déplacée à l'aide d'un moteur à explosion, une Mazda, une Suzuki, une Toyota, une Nissan, une autre Mazda, une Vaux au diesel trafiqué et une Vaux au gaz, et à travers tout ça, deux pick-up japonais. Quand je vais acheter une pinte de lait bio au village, je brûle deux pots maçons de belle gasoline claire. J'y pense à chaque fois. Je roule en cocktail Molotov. Je suis comme mon ami Étienne, qui a pleuré en voyant les images des animaux abandonnés dans les bâtiments de ferme pendant les inondations de la vallée de la Fraser, et qui a aussi initié l'été dernier son fils de 6 ans aux joies du motocross, comme son père l'avait fait pour lui. Et je suis comme cet humoriste radio-canadien qui confesse avec dérision s'être fait livrer à sa porte par Amazon une boîte d'Oreo à saveur de gâteau aux carottes pour le kick. On sait que notre manière de vivre est une forme explicite d'autodestruction. Une société de feu. Tout ce qui, dans cette civilisation fossile, s'appelle plaisir, gâterie, luxe, relaxation, aventure, esthétique, est définie par le moteur à explosion. Des quads qui se baladent entre les cabanes à patates dans l'arrière-pays québécois jusqu'aux super yachts qui mouillent dans les ports prestigieux de la Méditerranée, en passant par les après-midi de ski nautique à 150 $ de gaz à l'heure sur les lacs des Laurentides, des mythiques virées sur les autoroutes interurbaines du continent à la van life de tendance pandémique qui s'ajoute à la série des vacances en campeur ou en fifth wheels de la Gaspésie à Las Vegas, des sauts de puce à Philadelphie ou à Boston pour s'asseoir quelques heures à la table d'un grand chef, d'une grande chef, jusqu'aux excursions familiales en Asie du Sud-Est, aux croisières sur le Danube, au tourisme dans l'espace et à la souffleuse à feuilles mortes. Le divan explosif est, comme les armes à feu dans les grandes surfaces américaines, en vente libre à la pompe. Liberté, comme on dit. Notre territoire est foncièrement, intégralement, et irrémédiablement un territoire fossile. Que nous nous baladions en char électrique, en vélo partagé, en autobus de ville ou en monster truck, que nous mangions bio ou Costco, que nous habitions au fond d'un rang avec vue sur la trail de Skidoo, qui passe derrière une ferme de données. Dans une banlieue bercée par le va-et-vient des camions sortant au compte-gouttes de la carrière de sable, à la croisée de deux autoroutes, d'où on entend le grondement continu des voitures, dans un 5,5 périurbain, survolé par des avions commerciaux qui décollent et atterrissent jour et nuit, ou en plein centre-ville, au sommet d'une tour prise d'assaut par le bruit des marteaux-piqueurs, défaisant l'asphalte pour mieux la refaire. Nous opérons, qui que nous soyons, dans une géographie automobile. La modernité occidentale se définit avant tout par une vitesse spécifique héritée de la découverte de la combustion fossile. Cette vitesse exprime un rapport espace-temps que l'on peut qualifier de mobilité apocalyptique. Celle-ci est certes forgée par le charbon et le pétrole, mais elle ne s'y résume pas. Des relais nucléaires soutiennent et prolongent ce cadre et cette structure, et la transition énergétique amorcée vise d'abord à maintenir cette vitesse de déterritorialisation fortement addictive qui est la nôtre, tout en amoindrissant les effets de celle-ci ou en les reportant dans un futur indéterminé. Nous sommes le peuple des explosifs et nous sommes en train de nous faire sauter. Notre plaisir donc, mais surtout notre survie, pour l'heure et pour un futur prévisible, dépend de cette mobilité apocalyptique. Toute la structure d'approvisionnement en biens essentiels et en biens de luxe et une grande part de la possibilité pour chacun chacune de capter des capitaux pour s'assurer l'accès à ces biens repose sur la capacité individuelle et collective d'arpenter cette géographie. Pour tout dire, nous mangeons, nous nous logeons, nous nous habillons et nous nous divertissons en mettant le feu. Si certains peuples se définissent comme le peuple du caribou ou le peuple du poisson blanc, parce qu'ils vivent de ces animaux, nous, les industrialisés, nous sommes le peuple des explosifs et nous sommes en train de nous faire sauter. Fascisme fossile. Pendant les inondations qui ont touché la Colombie-Britannique en novembre 2021, alors que cédait une digue retenant les eaux de la rivière Fraser, un incendie s'est déclaré dans le stationnement d'un concessionnaire de véhicules récréatifs de la ville d'Abbotsford. Sur les images diffusées, on pouvait voir, entre les bras d'eau inondant la Sumas Prairie, une colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de la centaine de mastodontes d'acier enflammés qui menaçaient de réduire en cendres les lignes à haute tension situées à proximité du site. Ces événements ont eu lieu juste après le sommet de la COP26 à Glasgow, où l'accord signé évoque une timide sortie progressive du charbon et des subventions aux combustibles fossiles, reconnaissant par là, pour la première fois, que les énergies fossiles sont la cause de la très grande part des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Le Devoir a écrit à cette occasion qu'on sait maintenant que la planète se dirige vers un réchauffement qui dépassera, selon toute vraisemblance, les 2,7 degrés Celsius si aucune action politique draconienne n'est imposée incessamment. Chez nous, ce sera encore davantage, de 2 à 4 degrés Celsius d'ici 2050, de 4 à 7 degrés Celsius au sud du Québec et de 5 à 10 degrés Celsius d'ici 2100. Ces réchauffements entraîneront des phénomènes météorologiques extrêmes. la concrétisation des effets massifs de la poursuite d'une civilisation fossile est inscrite dans le destin de l'impérialisme européen, dont toutes les terriens et terriennes héritent, qu'ils et elles le veuillent ou non. Et nous nous trouvons en conséquence, à l'échelle du monde, comme au Québec, face à une reconfiguration des forces politiques. En marge du sommet écossais, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a expliqué aux journalistes que l'Empire romain s'est effondré en grande partie à cause des effets de l'immigration incontrôlée. Il n'était plus en mesure de contrôler ses frontières. Les gens affluaient depuis l'Est et d'un peu partout. La civilisation peut progresser, mais elle peut aussi subir des reculs, a dit Johnson, et l'exemple romain devrait, selon lui, servir d'avertissement devant les conséquences indésirables des mouvements migratoires liés au changement climatique si ceux-ci ne sont pas pris en charge. Le populisme de droite délaisse donc graduellement le négationnisme climatique pour proposer une défense verte de la nation. Il s'agit alors de contrôler les hausses de température dans le but de limiter les flux migratoires dus aux catastrophes écologiques et ainsi de protéger le territoire national blanc d'une invasion par les masses paupérisées, jugées économiquement, culturellement et environnementalement inassimilables. Plusieurs analyses s'attendent à ce que cette tonalité nationaliste verte devienne dominante dans les pays occidentaux, à l'heure où les États-Unis apparaissent sur la liste de l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance des pays du monde où les reculs démocratiques sont préoccupants. Par ailleurs, dans ces mêmes pays occidentaux, s'inaugure une variété de luttes au nom d'une identité automobile, mais aussi, plus insidieusement, pour ce qu'on pourrait appeler la revendication d'un droit à la vitesse apocalyptique. Ainsi, la proposition d'une taxe carbone perçue directement à la pompe a été l'élément déclencheur de la mobilisation des Gilets jaunes en 2018 en France, pendant laquelle les classes populaires ont occupé, de manière éloquente, les ronds-points. Elles revendiquaient alors l'accès abordable au carburant qui permet de travailler, de nourrir sa famille, de payer le loyer. Les gens ordinaires veulent du pétrole, leur vie en dépend, disent-ils, et ils ont bien raison. En Pologne, le gouvernement résiste vigoureusement aux injonctions pressantes de l'Union européenne de se plier aux règles environnementales en vigueur et de fermer ses mines de charbon. On en fait une question de souveraineté et d'autonomie, tout comme les tenants et tenantes du Wexit en Alberta, qui considèrent l'option de se séparer du reste du Canada pour protéger l'industrie des sables bitumineux de la province. Le nationalisme énergétique sert alors de contre-pied aux politiques de décarbonisation de l'économie et la fierté nationale d'antidote contre l'éco-anxiété. Cette convergence du patriotisme et de la revendication de la vitesse fossile que les auteurs, autrices du collectif Zetkin ont mise en avant dans leur ouvrage « Fascisme fossile », La Fabrique, édition 2020, prend parfois une tournure psychotique. Le jeune homme qui a ouvert le feu dans un Walmart d'El Paso en 2019 et tué 23 personnes a affirmé « L'environnement se détériore d'année en année. La réponse logique à cette situation est de diminuer le nombre de personnes » qui dépendent des ressources sur le territoire américain. Si on peut se débarrasser de suffisamment de monde, notre mode de vie deviendra plus soutenable. Dans cette version terroriste de l'analyse climato-coraciste de Boris Johnson, on en arrive à énoncer qu'il faut tuer des gens pour protéger notre façon de vivre. On va brûler la terre à notre guise et éliminer au besoin quiconque nous bloque la route, immigrants, immigrantes, réfugiés, réfugiés environnementalistes, antiracistes, antifascistes, militants, militantes, anticapitalistes. Parce que, au Québec, comme partout ailleurs, c'est comme ça qu'on vit. La territorialité apocalyptique qu'opère l'usage des énergies fossiles est inséparable de notre mode de vie et, si tout le monde est par ailleurs plus ou moins d'accord pour dire qu'il faut limiter le réchauffement climatique, ce mode de vie n'est au reste pas négociable. On ne va même pas ralentir pour négocier la courbe. D'ailleurs, de mode de vie, nous n'en avons pas d'autre. Changer de vitesse. Peut-être que la poétesse Huguette Gaulin est une Cassandre de la civilisation fossile, elle qui s'est immolée par le feu dans le vieux port de Montréal en 1972, en lançant à la face de l'humanité « Vous avez détruit la beauté du monde ». La concrétisation des effets massifs de la poursuite d'une civilisation fossile est inscrite dans le destin de l'impérialisme européen. Pour ma part, en matière de pétro-spiritualité, je médite encore les paroles d'un homme Mi'kmaq qui, à Listigouge, il y a quelques années, lors d'une cérémonie, nous a invités à avoir de la gratitude pour le monde minéral, en particulier pour le pétrole, qui nous avait permis de nous réunir ce jour-là. Car l'enjeu, quoi qu'en disent les partisans, partisanes de la bio-ingénierie, du capitalisme vert et autres utopies transitionnelles, ce n'est pas exactement de cesser d'utiliser du pétrole. L'enjeu, c'est de sortir du rapport au monde qu'a inauguré cette vitesse, ce rapport espace-temps qui est le propre de la mobilité apocalyptique dont nous nous nourrissons, à laquelle nous survivons et nous nous identifions de manière compulsive. Parmi les survivants, survivantes de l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, où les territoires présentent des degrés élevés de radioactivité, le penseur et activiste Sabu Kosso raconte que des communautés acculées dans des environnements irrémédiablement abîmés expérimentent des manières de s'organiser qui requièrent des formes minimes d'énergie. Ces gens-là sont passés de l'autre côté. Ils sont allés au bout de la mobilité apocalyptique. Ils sont dans le futur, à ce point prévisible de l'existence de notre civilisation où la vitesse fossile et ses énergies prothétiques ont détruit les sources de vie. Une voie décroissanciste se dessine ici, dans une situation extrême mais très concrète. Il s'agit de trouver des chemins par lesquels cesser de s'identifier à la vitesse apocalyptique qui irrigue l'ensemble de la culture. Il s'agit de résister à la tentation de revendiquer cette cadence comme un droit, celui de tuer pour vivre. Comment donc inaugurer des formes d'existence qui ne s'inscrivent pas dans cet horizon d'autodestruction jouissif qui est le seul que nous connaissions et dont l'expression fascisante actuelle constitue une potentialité intrinsèque, récurrente et, consciemment ou non, explicitement ou non, largement partagée. C'était « Civilisation fossile », un texte de Dali Giroux, paru dans l'édition Printemps-été 2022 dans le magazine « Nouveau projet ».
Filtre anti-microplastique pour laveuse, une expérience québécoise. Un texte de Marine Cornu, paru le 9 février 2023 dans Québec Science. Le lavage du linge relâche des millions de microfibres dans les eaux usées et ultimement dans l'environnement. Les résultats d'une expérience de science participative visant à documenter et limiter le phénomène au Québec viennent d'être présentés. Le bilan est mitigé. À chaque lessive, l'abrasion du linge conduit au relargage de milliers de fibres de tissu dans l'eau de rinçage. Similaire en apparence à la charpie que l'on récupère dans les sécheuses, ces résidus sont un mélange de matières organiques et inorganiques comme du sable, de fibres de coton et de fibres de plastique issues des vêtements synthétiques. Ce sont ces dernières qui intéressait tout particulièrement l'équipe de Polytechnique Montréal et le groupe de recommandation et d'action pour un meilleur environnement, GRAME, qui ont lancé une expérience de science participative en 2021 pour estimer la production des microfibres de textile au Québec et dont les résultats viennent d'être présentés. Une trentaine de citoyens et citoyennes ont ainsi équipé leur laveuse d'un filtre qui récupère l'eau de lavage et retient la charpie. Celle-ci était extraite du filtre à chaque brassée, congelée et envoyée ensuite pour analyse au laboratoire de Polytechnique dans l'équipe de Dominique Claveau-Mallet, spécialiste des eaux usées. L'expérience a duré 6 mois. Pour une moyenne de 56 lavages par ménage, soit 2,3 lessives par semaine environ, et le filtre choisi était un modèle fabriqué au Canada sans pièces jetables avec une efficacité avérée. On a récupéré 2,34 mg de fibres par litre de lavage, ou encore 27 000 microfibres par gramme de charpie, a expliqué Mohamed Abourich, étudiant à la maîtrise à Polytechnique et responsable des analyses, lors d'une conférence présentant les résultats. Si on extrapolait à l'échelle de la ville de Montréal, on aurait récupéré 41 tonnes de matière, dont 13 tonnes de fibres synthétiques. Ce problème est connu et bien quantifié depuis plusieurs années. La quantité de microplastiques rejetés dans les cours d'eau et les océans chaque année, est estimé à 1,5 million de tonnes. De ces microparticules, 35 % proviendraient des textiles synthétiques et seraient générés par le lavage. Hélas, le Saint-Laurent fait partie des fleuves les plus touchés au monde. Comment limiter cette pollution? Plusieurs équipes de recherche planchent sur le sujet et certains pays mettent en place des contraintes législatives fortes. En France, par exemple, une loi prévoit que les lave-linges neufs soient dotés d'un filtre à microfibres à partir de 2025. En Ontario, un projet de loi similaire a été déposé pour interdire la vente ou la mise sur le marché de machines à laver qui ne sont pas équipées de filtres. Il a été lancé suite à une étude qui a inspiré le GRAME mené par l'Université de Toronto sur 97 maisons de la municipalité de Parry Sound. Si l'étude québécoise montre l'efficacité du filtre pour retenir les fibres, elle est plutôt décevante sur le plan pratique. plus des deux tiers des participants n'ont pas apprécié l'expérience avec le filtre. Difficile à installer et à nettoyer, il lui a aussi été reproché de retenir les matières organiques, impossibles à utiliser avec des couches lavables, de se boucher et d'empêcher la bonne évacuation de l'eau. C'est donc plus ou moins concluant, a concédé Catherine Houbard du GRAME, précisant qu'un autre filtre ou une autre technologie serait sans doute préférable si le système devait être généralisé. Laver intelligemment. En attendant les machines à filtre intégrées, il est possible de limiter l'impact du lavage du linge sur l'environnement. Les conseils les plus efficaces? Laver son linge seulement si nécessaire, opter pour des matières non synthétiques et laver à l'eau froide. La température élevée favorise le relargage des microfibres, a confirmé Mohamed Abourich. Des gestes qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent diminuer d'un facteur 5 l'empreinte environnementale de nos brassées. C'était Filtre anti-microplastique pour laveuse, une expérience québécoise, un texte de Marine Cornu, paru le 9 février 2023 dans Québec Science.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.